Alors, ce matin, on voulait parler de nos vies. Alors, je pense qu'on va être tous d'accord qu'il y a des choses par lesquelles on passe, avec ou sans Dieu. Et ça fait qui nous sommes. Alors, ce matin, on va s'intéresser à Jonathan et Jennifer. Alors, je dois vous faire une petite confession. C'est que Virginie m'avait demandé de mener l'atelier sur les témoignages. Et on s'est dit, bon, bah, qui choisissons-nous? Elle me dit, bon, je vais trouver, d'accord. Et le matin, on était en haut, on faisait la louange, et j'ai vu Jonathan, et je me suis dit, oh, j'aimerais bien savoir qui c'est, ce gars-là. Et je l'ai jamais vu. Et bon, voilà, c'est tout. Et puis ensuite, Virginie donne la liste des personnes qui devront travailler sur leur témoignage, et c'était Jonathan, déjà. Deuxième chose, il y avait une autre personne. Je l'ai regardée et je me dis, oh là là, cette personne, j'aimerais vraiment apprendre à la connaître. Il y a quelque chose et je ne sais pas ce que c'est, mais il faudrait parler. L'onction peut-être, c'est peut-être ça. La liste, c'était elle, une dame. C'était pas Jennifer, c'était une autre dame. Et après, troisièmement, c'était Jennifer, mais je le savais, on avait déjà prévu. La troisième dame, pourquoi n'est-elle pas là? Alors on est là et puis moi j'avais mon plan, il était bien fait. Vraiment bien préparé. On a 2h30, on prépare nos témoignages, vous me dites chacun votre témoignage, je suis avec Chris, Chris est très bon en questions, et puis on pose les questions qui sont nécessaires, et ensuite on prépare quelque chose comme à la télé. Ouais, présentateur qui pose une question à l'un, puis à l'autre, et on met toutes les choses importantes et tout ça. Et ça s'est pas passé comme ça. On a commencé à écouter le premier témoignage. Et je dis, oh là là, Seigneur, il y a vraiment quelque chose qui doit se passer là. Il faut qu'on prie. Il y a des chaînes qui doivent tomber. Et j'avais reçu ça le matin, pendant la louange. Des chaînes doivent tomber. Et c'était pendant ce témoignage. Alors je dis, oh non, mais on ne peut pas faire ça, on n'a pas le temps. On a 2 heures, on doit préparer nos témoignages. Et malgré tout, je dis, allez, on écoute les 3 témoignages. Et je leur ai dit, vous allez voir, écoutez-vous parce que vous allez vous bénir l'un l'autre. Vous allez vous enrichir et vous allez vous fortifier l'un l'autre. On arrive au troisième témoignage. Le troisième témoignage parlait complètement au premier témoignage. Le deuxième témoignage encourageait le premier témoignage. On n'avait rien à faire, Chris et moi. On était assis là, puis on les écoutait parler. Et je disais, Saint-Esprit, tu parles, tu touches, tu transformes. Et tu guéris. Et on est là pour ça. On est là pour ça. Donc c'est ce qui s'est passé. On a eu un moment d'attouchement du Seigneur, de la guérison. Et je suis rentrée à la maison. Malgré tout, je tenais quand même à mon plan. Alors j'étais un peu stressée. Je dis, moi j'ai besoin de mes questions, j'ai besoin de quelque chose de percutant, parce que ça doit péter. La pression. Et je rentre à la maison et je me sentais très mal. Je le sens pas, ça va pas marcher. Et je parle avec Virginie, je lui explique, elle me dit « Ouais, non, ça va pas. » Alors, je suis revenue ce matin, je suis allée voir la personne, premier témoignage, je lui dis « Écoute, je pense que le plan de Dieu n'était pas le mien, et je pense que son plan, c'était qu'on s'occupe de cette situation, qu'on brise les chaînes, et c'est tout. Maintenant, t'es libre, va, vis ta vie, et on va encore travailler ensemble. » Mais le plan de Dieu, ce n'était pas que tu donnes ton témoignage ce matin. Mais je vais dire ça comment? Moi, je n'ai pas envie de blesser cette personne. On a un plan. Et cette personne-là, elle me dit, je suis rentrée chez moi hier soir et j'ai mis en pratique tout ce qu'on a discuté pendant l'atelier. J'ai pris, position. J'ai pris position et je suis changée. Et Jonathan, tu confirmes? Elle est transformée.
Oui, oui, je confirme.
Moi, je l'ai vu sur son visage.
Oui, en fait, on a prié pour elle à un moment et je le sentais vraiment. Il y a un grand soleil qui est venu à l'intérieur, mais partout dans cette personne-là. C'est le Saint-Esprit qui va maintenant changer sa vie complètement.
Donc voilà, 2 personnes au lieu de 3. On a plus de. On ne sait pas où on va, mais Dieu est bon. Le Saint-Esprit agit. Et ce qu'on sait, c'est que. Cette personne a été bénie et j'en suis mais reconnaissante à Dieu. Et il y a quelque chose ce matin. Alors, je vais vous demander à tous de vous lever. Levez-vous. Je vous demande des mains. Tendre les mains vers nos deux intervenants ce matin. Jessica et Jonathan. Jennifer. Oui, Jessica. Elle en a pas. Il n'y en a pas. Et on va les bénir. On va les bénir et vous priez vraiment afin que Saint-Esprit soit à l'œuvre, mais alors en toute liberté. Allez-y, on y va. On y va, on y va, on y va. Amen. Jésus, merci pour Jonathan, merci pour Jennifer. Merci Seigneur, merci. Ah, ça fait du bien de travailler en équipe. Hein. Oh là là. Alors on est parti, Jonathan, tu peux te présenter s'il te plaît.
Mais je crois que beaucoup me connaissent déjà. Je m'appelle Jonathan. Voilà, je sais pas trop quoi dire. Je viens d'une famille chrétienne. Mon père est pasteur, donc j'ai toujours eu cette éducation chrétienne. Voilà.
Voilà. Donc éducation chrétienne.
Ouais, c'est ça.
D'accord. Et on va passer à la deuxième question. Donc ton arrière-plan familial, tu viens de le dire, frères et sœurs.
Oui, j'ai deux frères et une sœur.
Tu as vécu dans la région.
J'ai vécu, ouais, à Saint-Omer.
D'accord. Donc c'est voilà. Quelqu'un du coin.
Voilà.
D'accord, très bien. C'est un ch'ti. C'est tu sais parler ch'ti?
Non. Enfin, voilà. Je savais, mais je le fais mal. Donc,
David peut t'apprendre. D'accord, Jonathan. Alors, comment as-tu vécu ton enfance? Est-ce que tu peux nous donner quelques lignes?
J'ai eu une enfance vraiment bénie par Dieu, parce que, et c'est vraiment en y repensant maintenant, quand je fais la liste, voilà, je me rends compte que c'était vraiment béni. J'avais vraiment un cœur pour Jésus. Et Dieu m'a béni dans plein de choses. J'étais... En fait, c'est mon éducation qui fait que j'ai été protégé. Il y a plein de choses comme ça, en fait, mais il faudrait que je... Voilà.
Ouais. Alors, on se rend compte avec Jonathan que quand on le fait parler, il y a des choses qui sortent. Je lui ai dit, tu sais, Jonathan, t'es un trésor de bénédiction. Et on va devoir les faire sortir, tes...
Ouais, c'est vrai.
Tes richesses. Donc, t'as été vraiment béni, Jonathan.
Oui, j'ai été béni, ouais.
Hein, une enfance comme ça, dans une famille... où on t'a inculqué les valeurs de Dieu, du royaume.
Ouais.
C'est magnifique.
Et je croyais vraiment.
Et tu y croyais vraiment. Mais ensuite, il a fallu que tu partes à la recherche.
Ouais. Donc je me suis intéressé à certaines pratiques un peu pas chrétiennes. et à l'alcool aussi à un moment. Voilà. Et je me suis éloigné, j'allais plus à l'église. J'en avais marre. Voilà. J'étais déprimé.
T'étais déprimé,
oui.
Ton avis.
En fait, et je croyais que c'était normal, je croyais que c'était un rite de passage de l'être humain. On passe par une dépression énorme où on n'est pas bien et voilà.
T'as découvert que c'était vraiment ça ou...
Après, en y repensant, non, c'est parce que je cherchais plus Dieu. Je m'étais éloigné de Dieu, en fait, inconsciemment.
Donc il y avait un manque.
Oui, voilà, c'est ça, il y avait un vide.
Il y avait
un gros vide. Ouais.
Mm-hmm. Un gros vide. D'accord. Et donc, tu t'aimais. Donc, ça, c'était ta recherche.
Ouais.
Mais ensuite, il y a eu un point capital dans ta vie.
Ouais.
Vas-y.
Alors, j'étais. Ça s'est passé vraiment en quelques jours, quoi. J'étais dans un bar avec des amis et mes amis faisaient plein de bêtises. Je ne vais pas citer les bêtises qu'ils faisaient, mais voilà, ça ne me plaisait pas et j'étais vraiment. Je me sentais très mal à l'aise. Je n'allais pas bien. Et puis, je buvais avec eux. Donc, j'étais beaucoup intéressé par l'alcool. Et ça n'allait pas, alors je me suis isolé dans les toilettes du bar. Et j'ai prié, et j'ai dit, Seigneur, il y a un problème avec ma vie. Ça ne va pas. Là, tout de suite, je suis prêt à abandonner mes potes. J'en ai plus rien à faire d'eux, ils font n'importe quoi. Je suis prêt à partir chez moi, là, maintenant, parce que j'en ai marre. Et le lendemain, j'avais un rendez-vous chez mon cousin à Bruxelles. C'est un rendez-vous qui avait déjà été placé bien avant. Qui avait déjà été convié bien avant. Et il est chrétien, en fait, c'est un pasteur stagiaire, je ne le savais pas. Et il m'a dit des choses qui m'ont beaucoup touché, comme tu n'es pas obligé d'aller dans l'église de ton père ou des trucs comme ça. Et en fait, ça m'a vraiment touché. Je trouvais que ça me parlait vraiment. Voilà. Et il m'a dit, tu peux venir à l'église demain. Et moi, je disais, ouais, je suis chrétien. Enfin, je me croyais, j'étais dans mon truc, hein. Je croyais que j'étais chrétien. Je disais, ouais, je suis chrétien, donc je vais venir dans ton église. J'y suis allé et pendant la louange, Dieu m'a touché. J'ai eu une repentance. Sur le moment, je ne m'en rendais pas compte, hein, mais j'ai eu une repentance. Et voilà, depuis, j'ai vraiment cherché Dieu à partir de ce moment-là. Parce que Dieu m'a vraiment touché. C'est lui qui m'a tiré, en fait.
Tu es allé à l'église dans quelle ville ?
Oui, donc cette église est à Bruxelles. Ma vie n'est absolument pas en Belgique. Donc j'allais quand même pendant un an et demi à Bruxelles, là-bas. Je faisais tous les trajets. Je partais à 6h du matin et je revenais, il était 18h, juste pour 2 heures de culte. Je voulais absolument y aller.
Est-ce que tu étais encore en dépression à ce moment-là ?
Non, je me rendais plein de choses qui changeaient. Je me rendais compte qu'il y a plein de choses qui changeaient. Dieu me parlait et je vivais des choses avec Dieu et ça partait en fait. Il y a plein de mauvaises choses qui partaient. Voilà.
Est-ce que tu peux... Ça, c'était pas une question préparée, mais j'y viens d'y penser, donc je vais la poser okay. quand même. Est-ce que tu as vu une différence entre le moment où tu t'es reconsacré à Dieu et ouais. ton enfance où tu étais dans ton bain familial chrétien ?
Quand je suis revenu à Dieu, bah, je dirais que j'ai retrouvé tout ce que j'avais perdu. En fait, je me souviens quand j'étais petit, j'allais dans des réunions et je sentais la présence de Dieu quand j'étais petit. Et je recherchais ça et je le recherchais à travers d'autres pratiques quand j'étais perdu. Je recherchais vraiment cette sensation-là. J'ai trouvé des trucs similaires, mais c'est des mensonges en fait. Et quand je suis revenu à Dieu vraiment, bah, j'ai vraiment retrouvé, Dieu m'a vraiment touché, il m'a fait sentir son amour. C'était encore plus fort que ce que j'avais vécu quand j'étais petit parce qu'il m'a vraiment fait sentir son amour.
Mmh. Est-ce que tu es retourné dans l'église de ton père ?
Depuis, oui, plein de fois. Faut demander à Frédéric. Voilà.
Excellent.
C'est complètement différent maintenant.
C'est différent.
Oui, oui, oui.
Parce que tu as changé.
Parce que j'ai changé. Dieu m'a changé.
Bah, voilà. Alors, depuis que tu connais Dieu personnellement, c'est plus la foi de tes parents.
Ouais.
C'est ta foi personnelle.
Exactement.
Comment se passe ta vie ?
Eh bien, c'est... différent. Vivre par l'esprit, c'est vraiment quelque chose de... avec Dieu, quoi. C'est vraiment quelque chose de fort, d'extraordinaire. On est protégé et Dieu nous montre plein de choses et il nous transforme. Il nous transforme vraiment de l'intérieur. Là où moi, je suis incapable de me transformer avec les anciennes techniques que je voulais utiliser quand je n'avais pas Dieu. Je suis quand même plus ouvert maintenant. J'ai moins peur des gens. Je me sentais souvent très, très inférieur aux gens avant. Là, ça change beaucoup. Je suis plus libéré et dans mon identité aussi, je me retrouve en Christ. Quoi. C'est très, très fort.
Ouais. Alors, tu as dit une chose, c'était vivre par l'esprit.
Ouais.
Est-ce que tu peux décrire ce que ça veut
Alors,
dire ?
Alors, c'est vivre en pensant au royaume de Dieu. Et c'est vraiment extraordinaire parce que quand on met le royaume de Dieu en premier et la justice de Dieu, comme le dit la Bible, eh ben c'est Dieu fait le reste, en fait. Et c'est vraiment ce que je vis. Dieu fait tout.
Wow. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Ça m'intéresse. Alors, question suivante. À quoi t'attends-tu du futur, de l'avenir ?
Alors, je m'attends à vraiment servir Dieu parce que je trouve ça exceptionnel. Parce que j'ai absolument... Je trouve rien à offrir à Dieu, mais je vais dans les services et Dieu fait tout et on vit des choses que je ne savais pas que j'allais vivre. C'est inexplicable avec des mots, mais je me sens pas prêt pour des choses, mais Dieu me dit vas-y, j'y vais et il se passe plein de trucs. Du coup, moi, je veux aller encore plus loin, je veux aller plus haut. Ouais. Y a des promesses dans ma vie, je veux les atteindre parce que c'est des promesses et bon, je vais les atteindre puisque Dieu me les a promis. Donc, j'aimerais vraiment rentrer dans les projets d'église, m'intéresser de plus en plus à toutes ces choses-là. Et c'est pas parce que je suis fils de pasteur que je veux rentrer dans l'église, ça n'a rien à voir. Ma foi, je ne l'ai pas construit avec mon père. Hein. C'est pas mon père physique, enfin biologique, qui m'a... Mmh. C'est vraiment tout ce que j'ai vécu depuis que Dieu m'a récupéré, ce que j'ai vécu à Bruxelles, etc. Qui fait qu'aujourd'hui, je veux vraiment servir Dieu, parce qu'il m'a montré la vérité.
Mmh. Ouais. Dans quoi es-tu engagé en ce moment, par le biais de l'Église ?
Alors, je suis engagé dans l'intercession. Enfin, je m'engage dans l'intercession. Je viens tous les mercredis soirs et les dimanches matins. Je vous encourage à venir parce que c'est exceptionnel de vivre des moments avec Dieu comme ça. Et dans l'évangélisation, parce que j'aime parler de Dieu aux gens, je me trouve moi-même mauvais dans le contact social, mais je vis des choses extraordinaires et Dieu me transforme grâce à ce projet-là parce que je mets le royaume de Dieu en premier. Et j'ai vraiment envie de parler de Dieu dans la rue. Voilà.
Waouh. Donc moi, je reviens à l'intercession. Personnellement, on me dit intercession, ça ne m'intéresse pas forcément. Quoi.
Oui, c'est parce qu'il faut vivre la vie de l'esprit, en fait. Faut rentrer... Non, mais c'est dur à expliquer. Comment expliquer ça? En fait, faut mettre Dieu en premier. Faut le chercher, même si on ne le sent pas, même si... Voilà. Faut vraiment chercher Dieu dans tous les points de notre vie, même ceux qui nous paraissent impossibles. Parce que Dieu est Dieu. Voilà, je ne sais pas quoi dire.
C'est bien. C'est
bah, voilà.
Bien. Je vais venir à l'intercession désormais.
Ok.
Et ensuite, l'évangélisation.
Ouais.
Alexis apparemment nous a dit tout à l'heure que tout le monde n'est pas intéressé par l'évangélisation.
Ouais. Bah, évangéliser, c'est dire ce que, comme par exemple ce que je suis en train de faire, dire ce que Dieu fait, tout simplement. Et aller dans la rue et voilà, il y a des combats, il y a des gens qui refusent Dieu et faut rentrer dans les combats parce que leur âme est remplie de, enfin, leur vie est remplie de mensonges et voilà, il y a des combats et voilà. Et j'ai vraiment à cœur de rentrer dans ces combats-là parce que c'est Dieu qui m'a mis à cœur ça, c'est inexplicable, j'ai à cœur.
Donc pour faire de l'évangélisation, est-ce qu'il faut certaines techniques?
Dieu donne tout. Il y en a qui n'ont aucune technique, qui viennent. Et si on a vraiment un cœur pour Dieu, si on cherche Dieu sincèrement, on apprend sur le moment et c'est encore plus fort que si on avait une technique qui marche qu'à moitié. Une technique qui viendra de nous et qui marche qu'à moitié.
Donc tu parlais de la vie de l'esprit. Ouais. Et moi j'ai l'impression maintenant qu'on est en train de parler de vie de l'esprit et de technique. Et toi, ouais, tu dis, il y en a qui viennent avec des techniques et ça rend les choses, ouais, très efficaces. Ouais. Mais j'ai l'impression que tu es en train de dire, commence avec la vie de l'esprit.
Ouais.
Si tu acquiers des techniques, ça va améliorer encore l'histoire. Mais la vie de l'esprit, tu prends, ouais, la vie de l'esprit, tu vas dans la rue, tu parles à tes collègues ou même au travail, partout. Ouais. Et tu partages ta vie.
Ouais.
Et puis, il y a des choses qui se passent.
Exactement.
D'accord. C'est clair. Hein, je pense que je ne peux pas aller plus loin, alors. Hein.
Okay.
D'accord. Alors, je continue. La Worship Academy,
oui,
qu'est-ce qu'elle apporte à ta vie?
Alors, j'ai fait 3 week-ends déjà. Le tout premier week-end, j'étais pas forcément dedans parce que Dieu me parlait sur certaines choses. J'étais à fond sur ce que Dieu me disait pour ma vie. Donc j'ai vécu ce week-end très bien, c'était vraiment bien. J'étais pas forcément dans le move du exact, mais j'ai vraiment bien aimé, j'ai apprécié parce que c'était très bien. Le deuxième week-end, quand je suis arrivé, je crois que c'est Virginie qui a dit « on se met tous en cercle ». Et là, dès que j'ai posé le pied, j'ai senti tout de suite... Non, d'ailleurs, même je crois que c'était à la porte. Dès que j'ai posé le pied en passant par la porte là-bas, tout de suite je me suis dit « ça y est, je suis dans ma famille ». C'est inexplicable. J'ai senti ça tout de suite. Et là, le troisième week-end, il s'est passé la même chose. Mais Dieu me disait qu'on est vraiment un peuple élu, qu'on est le peuple de Dieu et qu'on est une famille. Et c'était fort, c'était très fort. Il y a vraiment un mouvement. Dieu est à l'œuvre.
Dieu est à l'œuvre. Un petit exemple peut-être de ça?
Oui, il y a une dame, c'est ça, hein, c'est... Mm-hmm. Ouais, il y a une dame qui avait des chaînes dans sa vie. Et hier, on a vraiment vu Dieu... mettre les bonnes personnes au bon endroit. On s'est retrouvé à 5 dans une pièce à prier pour cette personne. C'est pas du tout ce que nous on avait prévu, mais c'est ce que Dieu avait prévu. Du coup, cette personne, en priant pour elle, j'ai ressenti que Dieu est à l'œuvre dans sa vie, vraiment, mais vraiment, 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 et qu'il y a un changement énorme qui s'est fait à ce moment précis-là. Et c'est l'œuvre de Dieu dans sa vie. Parce que c'est la Worship Academy, c'est un projet où Dieu touche les cœurs.
Et toi, tu m'as dit hier que tu voyais l'action du Saint-Esprit comme un mouvement.
Oui, en fait, je décris ça comme un mouvement. En fait, j'imagine beaucoup comme une ligne directrice à travers toute la Worship Academy, tous les week-ends, et tout ce qu'il fait, et les mouvements sont... Voilà.
Ouais.
Il y a un mouvement de l'esprit. Voilà.
Et tout est relié.
Tout est relié, ouais. Même si on ne comprend pas tout, c'est l'œuvre de Dieu.
Week-end après week-end.
Exactement.
Et les périodes entre les week-ends.
Exactement.
Font partie du mouvement.
Oui.
Magnifique. Magnifique. Alors, je passe à la suivante. Aurais-tu... Oh non, pardon. Alors, merci Jonathan. Je vais quand même poser la dernière question. C'est, as-tu un conseil à donner?
Ouais, alors, c'est simple. Croire. Croire parce que Dieu est vraiment là. Jésus est vraiment Dieu. Il faut saisir ça pour sa vie. Il faut saisir la croix, il faut rentrer dans les choses de l'Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous montre les choses. C'est incroyable, jamais j'aurais trouvé ça ailleurs, c'est impossible. Travailler avec Dieu, c'est énorme, il faut croire, il est là. Dès que vous êtes découragé, priez quand même, par exemple. Cherchez-le tout le temps, dans toutes choses, même s'il ne répond pas. Vous allez voir sa gloire si vous le cherchez sincèrement.
Wow, merci beaucoup. Excellent. Alors Jonathan, il y a quand même des choses à dire, hein, Jonathan. Oh là là, c'est un plaisir à découvrir, hein, un trésor de richesse. Ah, merci beaucoup, Jonathan. Je vais donc passer à ma Jessica qui est en fait Jennifer.
Elle m'a rebaptisée.
Alors Jennifer, vous verrez, de vous-même, hein, c'est une histoire différente. Et ce qui représente l'Église, parce qu'on est là tous différents. Et c'est ce qu'on voulait représenter ce matin. Jennifer, alors raconte-nous ton arrière-plan familial.
Alors, déjà, je m'appelle Jennifer, j'ai 35 ans. J'ai un enfant de 12 ans, séparé.
Je pense qu'on va...
Et je suis issue d'une famille très nombreuse, de 7 enfants. Ouais. Donc, je suis l'aînée, la seule fille, et il y a 6 garçons derrière. Et mes parents sont catholiques mais non pratiquants. Disons que j'ai jamais vraiment entendu parler de Dieu quand j'étais petite. Ensuite, j'ai été baptisée, petite communion, grande communion, d'où l'origine catholique, mais sans notion dans la vie de tous les jours de parler de Dieu en fait. Et je voulais préciser qu'à l'âge de 5 ans, je parlais avec ma mère. En fait, le soir, j'aimais bien me coucher dans son lit avant d'aller dans le mien. Et en fait, je lui ai dit, un jour, Dieu va descendre sur un grand trône et il va juger tout le monde. Mais je n'avais jamais entendu parler de Dieu ou quoi que ce soit. Et ma mère, elle me regarde et me dit, qui est-ce qui t'a dit ça? Je lui ai dit, je ne sais pas, je le sais, c'est comme ça, il n'y a personne qui me l'a dit. Et je lui ai dit, j'ai été envoyée parce que j'ai une mission sur cette terre, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Bon, ça, j'avais 5 ans, hein, donc voilà, je suis restée avec cette idée-là toutes ces années, en fait. Et petit à petit, je commence à comprendre le but de la mission, en fait. Mais chaque chose en son temps. En gros, Dieu fonctionne comme ça. C'est qu'il y a un temps pour chaque chose et on doit être préparé à des choses avant de comprendre ce qui se met en place, en fait.
Est-ce que tu peux nous donner des petites informations sur ton enfance?
Alors, moi, c'est pas du tout le même type de vie. Hein. C'est en gros la tempête et le calme. Et moi, c'était une enfance très, très difficile avec des parents qui se disputaient beaucoup. Mon père qui buvait beaucoup, qui frappait ma mère, et je vous laisse imaginer le contexte familial avec plein d'enfants autour qui vivent tout ça, et des frères qui pleurent et qui sont dans tous les sens, qu'il faut calmer. Moi, je me mettais au milieu de mes parents pour pas que ma mère prenne des coups. Enfin, après, je vous ouvre mon cœur sincèrement, hein, c'est des choses que j'ai pas spécialement envie de parler, mais je pense que c'est important que ça soit dit. Et donc c'était tout à l'eau de souffrance en fait, déjà tout petite en fait. Et j'ai grandi avec ce contexte de violence, d'insultes. En fait l'amour je l'ai pas trop ressenti moi quand j'étais petite, en gros. Et j'ai eu un rôle un peu de grande sœur, de mère, d'infirmière, d'assistante sociale, je gère tous les conflits quoi. Et voilà, et m'occuper de tous mes frères qui étaient en dessous et les protéger un petit peu. Donc ma place d'enfant je l'ai pas trop eue finalement, voilà. Ça va, j'en subis pas trop les conséquences aujourd'hui, mais bon, merci Seigneur. Et en gros, c'est un peu mon histoire petite, quoi.
Voilà. Et donc, dans toute cette histoire, donc t'es dans ce contexte qui n'est pas forcément facile à vivre, on va le dire, hein, clairement. Et tu nous as exprimé hier qu'il y avait une recherche en toi que tu n'arrivais pas à expliquer. Première chose, c'est que tu étais en relation avec Dieu.
Ouais, ça, ça a été ma force en fait. Parce que dans cette famille-là, avec tout ce que je vivais, je me couchais le soir, je me disais, parce que j'avais pas le temps d'apprendre mes leçons pour l'école, tout ça, parce que je faisais tellement de choses à la maison que j'avais pas ce temps-là pour moi. Et des fois, je me couchais, je disais, j'ai un examen, demain, une interrogation, peu importe. Et tout le temps, je priais, je disais, mon Dieu, faut que tu m'aides, que j'ai une bonne note demain parce que j'ai pas révisé et que, voilà, faut que... Et finalement, sans réviser, je réussissais quand même. Et... En gros, j'enregistrais les cours à l'école. Enfin, j'avais pas le temps chez moi et tout ce que j'écoutais pendant les cours, je l'enregistrais. Et finalement, bah, je m'en suis bien sortie. Je suis infirmière aujourd'hui et enfin, je suis arrivée le jour du bac, les mains dans les poches, quoi. J'ai rien révisé. Il y en a beaucoup qui étaient jaloux de ça. Ils disaient, elle fait rien et elle réussit. Je comprends pas. Mais bah, c'est comme ça. C'est la grâce de Dieu et il savait dans quoi j'étais, ce que je vivais et que j'avais pas ce temps-là pour moi, en fait. Et vraiment, cette recherche, c'est vraiment une force hein, où je disais, Seigneur, pourquoi tu m'as mis ici? Pourquoi je suis dans cette famille? Pourquoi enfin, je me disais, je suis dans une famille de fous, quoi. C'est pas possible. Pourquoi je suis ici? Et finalement, non, mais il y avait un réconfort, il y avait quelque chose qui faisait que ben, j'étais rassurée, en fait, chaque jour, et j'avançais, mais ben, il me préparait un peu à ce que j'allais vivre pour la suite, en fait, finalement. Parce qu'après, bah, j'ai eu ma vie à moi, ou après, je suis sortie de ma famille et j'ai construit ma vie à moi. Donc, bah, la première personne avec qui j'ai été, je suis restée 7 ans avec lui, j'avais 16 ans à l'époque, jusque 23 ans. Bah, c'est la très belle histoire, hein, conte de fées, tout ça, tout va bien, l'homme idéal, on va dire. Et finalement, à un moment donné, on s'est retrouvés à faire... bah, du spiritisme et tout ça à la maison, donc chez mes parents. Et on était tous là, hein, y a tous mes frères, ma mère, tout le monde, quoi. C'était en famille, quoi, tout le monde autour de la table, et on faisait bouger les verres, quoi. Et en gros, c'est un voisin qui est venu, qui a parlé de ça avec ma mère. On était là, intéressés, on s'est dit, on va voir si ça marche et tout. C'était plus par curiosité au départ, en fait. Et bah, comme ça fonctionnait, bah, on est resté dedans pendant un moment. Et je sais pas, un mois après, il s'est passé des choses où j'ai tout abandonné dans ma vie. J'ai quitté mon copain, j'ai quitté ma maison, j'ai quitté la région. Je suis partie à 700 km d'ici, j'ai quitté ma famille. Tout a changé du jour au lendemain, en fait. Un déclic. Mais je pense pas qu'il y ait... Après, est-ce qu'il était positif ou pas, c'est le parcours de Dieu. C'est pas... Je peux pas tout expliquer, en fait. Donc, je suis partie à 700 km d'ici. J'ai rencontré le père de mon fils, que je connaissais déjà avant. Et bon, bah là, après, on est parti dans un contexte de violence, alcool, drogue, boîte de nuit. Enfin, sauf que moi, je touchais pas spécialement, mais je voyais tout ce monde, en fait, ben, dans lequel je me retrouvais pas, finalement, parce que l'alcool, tout ça, c'est pas mon truc, les boîtes de nuit non plus. Et bah, le fait de subir les violences conjugales et tout ça, ça m'a rappelé aussi mon enfance, en fait, ça m'a renvoyé dans ce que je vivais petite. Et je me suis dit, mais je l'ai déjà vécu pendant pas mal d'années où je me suis mis au milieu et j'ai pas envie de le vivre moi aujourd'hui, quoi. Et donc, bah, c'est déjà difficile à accepter, en fait. Il y a toute une destruction qui se met en place aussi et une vision de nous-mêmes qui change aussi parce qu'on se dit, en fait, peut-être que je l'ai mérité finalement. Enfin, j'ai peut-être provoqué ces choses. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Donc, ben, après, on s'est séparés. Donc, j'ai refait ma vie au bout de... C'était 5 mois après. Donc lui, je suis restée 7 ans avec lui et après j'ai rencontré un musulman, un Marocain. Et ben c'est pareil, je suis repartie dans ce système de violence, de soumission, mais c'était encore plus fort parce que il y a le contexte de l'islam qui fait que parce que je suis devenue musulmane aussi. Et en fait, on accepte les choses parce que le Coran nous dit ben, que la femme doit être soumise à son mari. Et en fait, je l'ai fait pour Dieu. Je l'ai pas fait dans le sens où je me soumets à quelqu'un. Mais dans le sens où je voulais respecter ce qui était dit de Dieu, en fait. Et j'étais musulmane, mais vraiment, j'ai mis tout mon cœur. Hein. J'étais comme je suis aujourd'hui. Hein, et j'étais vraiment convaincue que c'était la vérité. Je voulais convertir tout le monde. Donc moi, j'évangélisais, mais de l'autre côté, en fait. Et finalement, j'ai réussi à ramener personne. Donc, ben heureusement, il n'y a personne qui m'a suivi. Donc, c'est, y compris ma famille. Hein. Je pleurais devant ma mère. Maman, il faut que tu viennes à la mosquée et tout. Je ne veux pas aller au paradis toute seule. Toute ma famille, elle est de l'autre côté. Ça ne va pas aller. Enfin, bref. Et ma mère, elle priait pour moi avec un pasteur, mais je ne le savais pas. Et elle était là, faut que ma fille elle sorte de l'islam et tout. Mais elle m'a rien dit, elle a fait son truc de son côté et finalement ça a été plus puissant que du mien. Donc la preuve, je suis là aujourd'hui. Donc finalement, je sais pas si je suis pas en train de.
T'es dans la recherche, tu vas nous. T'es en train.
Bah voilà, j'ai passé la question. Donc pour revenir à ça, donc j'ai fait ma recherche dans l'islam, mais finalement j'ai pas été dans l'islam parce que mon conjoint était marocain. C'est pas parce que j'ai voulu le suivre, mais parce que j'ai recherché Dieu. Et comme je le connaissais déjà avant, moi j'étais bien en fait, finalement, malgré toutes les épreuves et tout. Je savais que Dieu il était là, ça j'avais pas de doute là-dessus. Et lui il m'a dit, écoute, c'est la suite. Bon, après Jésus, il y a le prophète Mohammed qui est venu, ils ont écrit le Coran. Et le Coran, il vient pour... parce que la Bible, elle a été falsifiée, modifiée. Et en gros, le Coran il est descendu parce que Dieu il a voulu que la parole elle soit parfaite, en fait. Donc, il a tout corrigé, ce qui a été écrit dans la Bible par les hommes. Bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas, hein. Je dis, après, si c'est la vérité, c'est dommage de passer à côté. Donc, je commence à lire. Il a fallu un an avant que je me convertisse. Hein. Je ne l'ai pas fait comme ça du jour au lendemain non plus. Donc, j'ai fait mes recherches et tout. Et finalement, quand j'ai commencé à apprendre, parce qu'on apprend les sourates du Coran en arabe par cœur, je ne sais pas ce que je disais, mais j'ai appris quand même. Et après, je l'ai appris en français, mais finalement, ça ne vient pas du cœur, hein, parce que c'est des choses qu'on doit apprendre, quoi, et on doit réciter comme ça, il ne faut pas sortir du cadre, quoi. Je veux dire, vous allez à la mosquée, on ne saute pas en l'air comme on fait ici. Hein. C'est tout calme, il ne faut pas bouger, il ne faut pas parler. Enfin, voilà, retenez votre respiration et voilà, c'est tout. Ça n'a rien à voir, quoi. Tout le monde est habillé en noir. C'est pas du tout la même façon de voir les choses et la même façon d'adorer Dieu. Et tout le monde est séparé aussi. Il n'y a pas homme-femme, on n'est pas ensemble. Hein, donc, voilà. Et finalement, à travers tout ça, j'ai vécu des choses que je ne connaissais pas avant. Où, franchement, je faisais beaucoup de choses pour Dieu. Les 5 prières par jour, le ramadan, c'est beaucoup de sacrifices, mais qu'on fait pour Dieu. C'est notre cœur qui nous dit, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour lui. Et j'avais l'impression de faire plus de choses dans mes actions, mais d'être éloignée de Dieu par rapport à avant où je parlais avec mon cœur et où je n'avais pas l'impression de faire des choses dans la prière, me prosterner ou quoi que ce soit. Mais la présence de Dieu, je la ressentais de moins en moins. Et je me souviens que j'étais sur mon tapis et je pleurais. Hein, je pleurais devant Dieu. Je disais, pourquoi je ne ressens plus ce que je ressentais avant dans ma relation avec toi? Avant, je priais, tu me répondais, quoi. Je veux dire, c'était instantané. Et pendant 4 ans, j'ai fait plein de prières, hein, pour plein de problèmes. Je n'ai jamais eu de réponse. Et je me suis dit, il m'a abandonné. Et finalement, tu dis, si tu es dans le bon chemin, il est censé t'accueillir encore plus qu'avant et c'est moins bien qu'avant, finalement. Et après, j'ai connu la possession, en fait. J'ai fait une première crise pendant un mois de ramadan où on m'a dit, pendant le mois du ramadan, les démons, ils sont enchaînés la première semaine. Donc, ils ne peuvent pas nous attaquer, ils ne peuvent rien faire parce qu'on est en jeûne, on est protégé, tout ça. Et moi, 5e jour de ramadan, boum, crise démoniaque et tout. Je dis, ah ouais, mais c'est pas enchaîné, là. Je crois pas que... Franchement, il y a un souci, ça se déchaîne, surtout. Donc, voilà. Et j'ai pas compris ce qui se passait, mais intérieurement, le truc est arrivé comme ça, en fait. J'ai senti que c'était à l'intérieur et que vraiment, ça voulait sortir, quoi. Et j'avais pas de doute. Je savais qu'il y avait quelque chose et que j'étais possédée. Je l'ai senti, en fait. Donc, ils ont appelé un imam, tout ça, qui est venu prier. Ça a duré 2 jours, la crise, ça, sans s'arrêter. Je suis tombée à 7 de tension, j'étais épuisée, j'en pouvais plus, mon corps il se tournait dans tous les sens, et limite j'aurais pu être projetée sur des murs et tout, je savais même pas ce qui allait m'arriver en fait finalement. Donc il y a cette peur de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce qu'ils vont faire de moi en fait. Enfin, je sais pas, c'est particulier à vivre quand même, mais enfin, je souhaite à personne de le vivre, je préfère vous expliquer mon histoire et que vous sachiez plutôt que de le vivre par vous-même en fait. Donc, je suis chez le médecin, mais je n'allais pas lui dire « je suis possédée, il y a un problème, vous n'avez pas des médicaments pour ça, il faut faire quelque chose ». Donc, j'ai dit j'étais en dépression, que je pleurais, tout ça, donc il m'a remonté un peu ma tension, je me suis reposée, j'ai été arrêtée 15 jours, je suis tombée à 35 kilos, la totale, quoi. Je suis en train de dépérir, quoi. Donc ça s'est calmé, j'ai refait une crise, je crois, 6 mois plus tard, et en fait, ça a duré 4 ans, hein, l'histoire, donc... en faisant plusieurs crises et ça se rapprochait de plus en plus. Donc j'ai recherché vraiment la guérison parce que ce problème-là, c'était le truc principal dans ma vie où ça m'empêchait de vivre de toute façon. Donc Puis mon fils a vu ces choses-là et il m'a entendu dire des choses où c'est pas moi qui parle, c'est... Enfin, c'est un homme qui parle à ma place, quoi. C'est quand même particulier. Ma famille, elle a vu. Mes neveux, mes nièces, ils sont partis en courant hein, chez mon père. J'ai fait une crise, ils se sont tous sauvés. Et ils m'ont laissée là, toute seule. Enfin, j'avais besoin de réconfort, de me sentir accompagnée. Et finalement, je me suis retrouvée toute seule dans cet état-là où je me suis dit, comment je fais, quoi ? Qui va m'aider ? Et à part cette force que j'avais en moi qui me disait « prie et compte sur Dieu », c'est vraiment ça qui m'a tenue où j'ai compté que sur lui finalement. Et à un moment donné, je suis partie au Maroc parce que je me suis dit, si tous ceux que j'ai vus en France, j'en ai vu à Nîmes, j'en ai vu partout, hein, et en plus c'est payant, hein, donc je ne vous dis pas l'investissement pour pouvoir guérir, et finalement c'était de pire en pire. Donc ça n'avançait pas du tout. Et c'était de plus en plus fort en fait, hein, même les crises et tout, c'était de plus en plus fort. Et je me disais, c'est pas possible, je ne vais jamais sortir de ça, quoi. Et je priais Dieu, mais il ne répondait pas.
Et est-ce que tu as trouvé la réponse dans l'islam ?
Je ne l'ai pas trouvé parce que, je vais vous expliquer, dans l'islam, ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même façon de délivrer les gens. Ce n'est pas du tout pareil. En fait, c'est plus de la torture qu'autre chose. Parce qu'eux, ils pensent qu'il faut faire souffrir les démons pour les faire sortir. Donc, en gros, on m'a brûlé les ongles, on m'a envoyé de l'électricité dans les pieds. Ça, c'est au Maroc. Hein. Ils branchent une prise avec deux fils. Là. Ils ont coupé le truc du bout. Et ils m'ont envoyé dans les pieds des décharges, en fait. Je tentais, ça montait jusque dans mon cœur. J'ai dit, un jour, je vais mourir. Quoi, parce que, en plus, j'ai été opérée du cœur en 2011. Donc, je me disais, un jour, je vais y passer, en fait.
Donc, il a fallu sortir de là.
Ah oui, bah oui, parce que malgré tout ça, j'avais beau crier arrêter, il disait non, c'est le démon qui parle, c'est pas elle. Donc il continuait en fait. Et enfin, moi je me suis pas sentie du tout aidée. Et à la fin, ils m'ont dit ça va mieux. J'ai dit oui, je suis guérie. Voilà. Mais j'étais pas guérie, mais je voulais pas le dire en fait. Donc j'ai dit je retourne pas dans ce truc et je rentre en France et laissez-moi tranquille. Voilà. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je suis rentrée, j'ai prié et j'ai dit. Apparemment, si tu veux pas que ça sorte, tu me guéris pas. Je parlais à Dieu. Là, à ce moment-là, je lui ai dit, c'est peut-être que c'est ta volonté, en fait, et peut-être que j'ai trop péché dans ma vie et que je le mérite, en fait, quelque part.
T'es rentrée dans la culpabilité.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est, je me suis dit, si Dieu, il veut que ce soit comme ça, je l'accepte, en fait. Donc, j'ai dit, maintenant, c'est tout. J'arrête de me battre. Je vais plus voir personne. Je compte plus sur les gens. Et je compte sur toi. Et si tu veux me délivrer, délivre-moi. Et voilà, c'est toi qui décides, en fait.
Donc là, il y avait un cri du cœur qui
était vraiment... Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment été sincère, en fait. Vraiment, vis-à-vis de Dieu.
Tu ne pouvais plus attendre plus. Mm. Tu ne pouvais plus essayer plus.
Voilà, j'étais au bout, en fait. C'était le summum. Ouais, c'était le summum.
Et Dieu est intervenu.
Donc, il est intervenu. C'est que, en gros, il y avait un pasteur qui évangélisait à Roubaix. Et ma mère, elle l'avait rencontré avec son petit ami et ça faisait déjà quelques mois qu'il allait chez eux, il faisait des études bibliques toutes les semaines chez elle. Et moi, j'avais entendu parler de cette histoire où je lui disais, je peux passer. Elle me dit, non, il y a le pasteur qui vient faire une étude biblique. Je dis, je viens pas parce que j'étais musulmane, moi, je voulais pas voir le pasteur. Et je lui dis, c'est bien, fait ton truc. Tu me dis, quand tu es parti, je passerai après. Ok. Donc, et le pasteur, il voulait absolument me rencontrer puisque ma mère, elle avait parlé de moi et impossible qu'on se voie. La maison de mon père, elle a brûlé, ce qui fait que du coup, je savais pas trop où aller avec mon fils. Et finalement, c'est ma mère qui m'a hébergée. Donc, j'ai atterri chez elle pendant 4 mois. Et en fait, tout a commencé là-bas. Hein. Il a fallu qu'il se passe ça. Comme quoi, il y a même quelque chose qui nous paraît grave, aboutit finalement à ce que Dieu voulait. Parce que moi, j'y serais peut-être pas forcément allée de moi-même. Il a fallu qu'il se passe ça. Et comme quoi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'ai compris, en fait, je commence à comprendre les versets parce que maintenant, ils veulent dire quelque chose. En fait, ça résonne en moi. C'est pas comme si je lis un livre ou je lis, c'est bien, mais ça, maintenant, ça me parle, en fait. C'est vraiment, c'est concret. La parole de Dieu, elle est concrète, en fait, et c'est ça qui est puissant. Et les choses, en gros, la Bible, je l'avais pas lue. Enfin, je vais venir après parce qu'il y a tellement de choses, en fait, que... Du coup, ça part dans tous les sens. Et finalement, le pasteur, j'ai fini par le rencontrer, donc chez ma mère. Et il m'a parlé de la Bible et moi, je lui parlais du Coran. En fait, je voulais convertir le pasteur. Et en fait, c'était vraiment ça. Lui voulait me convertir de son côté. Et moi, mais c'est parti, c'était la guerre hein, entre les deux. C'était et le Coran, il dit ça. Et lui, il était super calme, quoi. La sagesse. Et moi, j'étais là, j'étais énervée, je voulais retourner la table. Il me disait, Jésus, fils de Dieu, arrête de dire ça, n'importe quoi et tout, c'est pas possible. Dieu, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas enfanté. Mais ça, c'est toutes les doctrines de l'islam. Hein. C'est ce qui a fait que Ben, j'avais tout ça dans ma tête et en fait je pouvais pas m'en débarrasser finalement, c'était vraiment ancré là-dedans et c'est ce qui me bloquait pour pouvoir entendre le message. Donc à partir de là, ben, déjà c'est fermé quoi, c'est scellé. Et en fait j'ai posé plein de questions, je lui dis ben, dites-moi pourquoi le Coran il dit ça, Dieu il a dit ça là et il dit ça là et il dit ça là. Et il dit ouh, il y a beaucoup de questions. Et il m'a dit, il a regardé le ciel, il a dit, bah, Seigneur, je te laisse répondre à toutes ces questions parce qu'il y en a trop et je n'aurai pas le temps de répondre à tout ça. Il m'a dit, tout ce que je peux dire, c'est que Dieu, il t'aime et il veut te sauver. Et en fait, c'est ce qui a tout changé. Parce qu'on a débattu des heures, il n'y a rien qui m'a touchée et ces deux phrases-là, elles ont tout changé. Je me suis décomposée, en fait, je me suis arrêtée net, j'ai arrêté de parler. Et c'est comme si c'était rentré dans mon cœur et ça a résonné. Dieu, et en fait, c'est ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là parce que j'étais tellement au bout. Dieu t'aime, il veut te sauver. Je me suis dit, ben ouais, mais moi, je me dis, il n'est plus là, je ne sais pas, il ne fait rien pour moi. Et d'entendre ça, ça a tout changé. Et finalement, il m'a donné un DVD avec 5 témoignages d'anciens musulmans qui se sont convertis au Christ. Et il m'a dit, regarde ça. Donc, je l'ai regardé. Et j'étais à peine au deuxième témoignage que j'en pouvais plus. Je pleurais. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et quand j'ai vu ces filles là à la télé, ces témoignages, je me suis vue dans ma vie. En fait, ça m'a projetée sur ma propre vie, en fait, ce que je vivais. Et tellement ça m'a touchée, j'en suis arrivée à... J'ai pleuré au moins 2 heures, hein, facile, hein, et j'ai suffoqué. À la fin, je ne savais plus respirer. Mais comme un enfant qui est comme ça, qui a le sous-glou et tout, et à un moment donné, j'ai senti comme ma respiration qui se coupe. Et d'un coup, j'ai fait... Et là, j'étais remplie. Mais en fait, ce que j'ai vidé, c'était mes souffrances, mes douleurs, mais comme si j'avais pleuré des larmes, en fait. Et quand j'ai été remplie, le seul mot que j'ai pu mettre, c'était l'amour. C'est vraiment le mot que j'ai pu mettre sur ce que j'ai ressenti. Mais ça ne s'explique pas. Il n'y a pas de mot, en fait, pour expliquer ce qu'on vit. Et le lendemain, je voulais embrasser tout le monde. Je prenais les gens dans mes bras. Je voulais dire je t'aime à tout. Alors qu'avant, je n'y arrivais pas. Je n'aurais pas pu prendre quelqu'un que je ne connais pas dans mes bras ou quoi que ce soit. Même avec mon fils, c'était déjà difficile, en fait. Et je n'ai pas compris. Et le lendemain, j'envoyais des messages à tout le monde. Je te demande pardon pour ce que je t'ai fait, nanana, nanana, à tout le monde, mes frères et tout. Et ils ont tous dit, écoute, va voir Jenny, je crois qu'elle va se suicider. Elle est en train de dire au revoir à tout le monde, je ne sais pas ce qu'elle fait, elle demande pardon. Et ils ont vraiment eu peur pour moi, en fait. Hein. Ils m'ont appelé, non, mais je vais très très bien et tout. Non, ben, elle va bien apparemment. Et ma belle-sœur, elle dit, non, mais elle est partie avec Jésus, ça va très bien. Elle a dit... Parce que bah, ils n'étaient pas trop pour l'islam non plus dans ma famille. Donc voilà, mais ils acceptaient les choses par rapport à moi, c'est tout. Parce qu'ils me respectaient. Mais ils n'adhéraient pas du tout.
Et donc ce que tu nous as dit hier, c'est que tu t'es couchée.
Voilà, et en fait après ce qui s'est passé, là, que j'ai pleuré et tout ça, le soir je me suis couchée. Et en fait avant de manger, je me souviens, parce que ma mère elle bénissait le repas. Donc moi j'étais là, elle bénit. Seigneur, merci, je te rends grâce, nanana, ouais, je bismillah, c'est bien. Et, enfin, parce qu'à ce moment-là, c'était ça. Et donc, je l'ai laissé. Hein, et à un moment donné, je l'ai regardé. Et j'ai repensé au témoignage, j'ai repleuré. C'était dans l'après-midi, hein, les témoignages. Et j'ai tapé du poing sur la table. Et j'ai dit, le Dieu là, qui a tout créé, celui qui a fait la terre, les cieux, qui nous a créés, nous, c'est à toi que je parle. Et vraiment, maintenant, tu m'as mis le doute avec ton pasteur et tout. Et je lui dis, moi, maintenant, je ne sais plus où je suis, en fait. C'est qu'est-ce que je dois suivre, en fait. Et il a fallu que le doute y vienne pour que vraiment les choses, elles s'ouvrent. Parce que j'étais fermée, parce que j'étais conditionnée dans mon truc où je ne voulais pas voir autre chose, en fait. Et là, j'ai dit, mais non, c'est toi, tu me réponds. Je ne veux pas un pasteur, je ne veux pas quelqu'un, tu m'envoies personne, c'est toi qui me réponds. Et je dis, tu es capable de le faire, donc dis-moi où je vais. Donc j'ai dit, pardonne-moi pour ce que je vais faire. C'est que je prends du recul et j'abandonne tout. C'est ni la Bible, ni le Coran. J'arrête les prières, j'arrête tout. Mais je fais ni un côté, ni l'autre. Et je me mets en retrait et j'attends que tu me réponds. C'est tout. Et je me suis couchée avec ça. Mais je pleurais quand j'ai dit ça. Donc je me suis couchée. Et en fait, le soir, eh ben, j'ai rêvé de Jésus. Et je me suis couchée musulmane et je me suis réveillée chrétienne, quoi. Ça s'est fait en une nuit. C'est vraiment... mais vraiment, c'est puissant. Et le lendemain matin, je me suis levée, j'ai été voir ma mère, qui priait depuis je ne sais pas combien de semaines là, pour moi, et je lui ai dit, maman, je suis chrétienne. Elle m'a dit, qu'est-ce que t'as dit quoi? Elle était en train de boire son café, je crois qu'elle s'est étranglée. Elle me dit, qu'est-ce que t'as dit? Je suis chrétienne. Mais c'est passé quoi? Et entre hier et aujourd'hui, c'est passé quoi? Et je lui ai dit, bah écoute, Dieu m'a répondu, c'est... Maintenant, je sais, parce que c'est Dieu qui m'a répondu. C'est pas j'ai écouté des prêches, j'ai écouté... J'ai été touchée par lui directement. Et en fait, j'ai rêvé de Jésus. À un moment donné, j'ai pensé, Seigneur, c'est bien, maintenant j'ai compris, je sais que tu es en train de me dire que c'est la Bible, alors je m'attendais à ce qu'il me réponde l'autre, mais bon. Et finalement, j'ai dit, ce que tu aurais dû faire, c'est me faire naître à l'époque de Jésus. Parce que je lui parlais comme ça, en fait. Hein, et c'est, pour moi, c'est normal, en fait. Et je lui dis, parce que le mieux, c'était que je l'entende lui parler, parce qu'il n'y a personne qui peut me convaincre, et il aurait fallu que je le vive, en fait. Que je le suive, que j'entende ses prêches et tout ça. Et 3 jours plus tard, je me couche et je rêve de Jésus. Et en fait, je me suis retrouvée à cette époque-là, avec les gens habillés, pareil. Jésus, il était juste à côté de moi, mais vraiment à côté. Et en gros, les gens, ils parlaient pas. Ça parlait, mais par esprit. Il y avait pas, c'est pas des mots qui sortaient comme on parle là. J'entendais Jésus parler, mais sans le voir parler, en fait. Et à un moment donné, je sais pas, il y avait quand même un truc rassurant. Il y avait, je sais pas, une paix, une sérénité que je ressentais. Je voulais pas me réveiller. Hein. Franchement, je me suis réveillée, je voulais y retourner. Et à un moment donné, je vois, il y avait Jésus, il parlait à un homme et il y avait un poisson qui était mort dans l'eau. En fait, il y avait le lac comme quand il était sur son bateau et qui prêchait et tout ça. Et il y a un homme qui était là, il devait prier sur, il priait sur le poisson. Et le poisson, il bougeait pas. En fait, il était mort. Et il regardait Jésus d'un air de dire, ça marche pas. Et ben Jésus, il a regardé 2 autres personnes derrière. Les 2 autres personnes, elles l'ont rejoint. Ils étaient du coup 3. Et à 3, ils ont prié sur le poisson. Et le poisson, il fait ça et il repart. Et moi, à ce moment-là, je n'avais pas lu la Bible, rien. Je ne connaissais pas les versets, les miracles. Enfin, j'avais des notions de quand j'étais petite et tout ça, mais parce que j'ai fait la catéchèse. Mais bon, après, c'est pas forcément clair. Et après, je vois une femme qui avait des longs cheveux noirs. J'ai compris après que c'était Marie de Magdala, en fait. Et pour moi, c'était sa meilleure amie. Dans mon rêve, c'était, ils avaient une relation, mais comme sa meilleure amie, ils ne se quittaient pas, il y avait un truc qui était fort entre eux deux, en fait. Et à un moment donné, Jésus, il s'en va. Et moi, j'étais là, il va où? Il ne faut pas qu'il parte, quoi. Il reste là. Et j'ai attrapé cette femme et je lui ai dit, va dire à Jésus que je suis possédée et que j'ai besoin qu'il me délivre. Tout ça, c'est dans mon rêve. Hein. Enfin, je veux dire, c'est percutant, mais ça ne s'explique pas. C'est là que je me dis que je sais que c'est Dieu, parce que je ne peux pas créer ce rêve-là, même inconsciemment, ce n'est pas possible. Et en gros, après, on est parti, j'ai rejoint Jésus, je me suis retrouvée dans une grotte, et je pense que c'était Sodome et Gomorre, en fait, avec le recul, parce qu'en fait, Dieu m'a montré les versets qui correspondaient à ce que j'ai rêvé, mais après, je ne l'ai pas compris tout de suite. Et j'ai vu une grotte avec 2 peuples différents, donc un peuple qui suit Jésus, qui croit et tout ça, et un autre peuple où, je sais pas, il y avait la sexualité, l'alcool, c'était, je sais pas, c'était partout ce parti, quoi. C'était tout un monde, mais les 2 peuples dans le même endroit, en fait, dans cette grotte, quoi. Et après, je suis sortie de là et le rêve s'est terminé comme ça. J'ai rêvé 2 autres fois de Jésus aussi, mais on ne va pas forcément rentrer dans les détails. Mais je sais que c'est une grâce déjà d'avoir rêvé de lui, d'avoir été touchée de cette façon-là. Et Dieu passe beaucoup à travers les songes maintenant. Je fais beaucoup de rêves, en fait, et ça a toujours été, c'est depuis que je suis petite. C'est des films, en fait. C'est vraiment, je peux raconter des histoires. C'est très fort. Donc je pense que Dieu a mis à cœur déjà des choses par rapport aux rêves. Il y a quelque chose qui se prépare, en fait. Bah, je comprends pas forcément tout, hein, parce que des fois, c'est tellement puissant que ça nous dépasse, en fait. Et la puissance de Dieu, elle est là, quoi. Et Dieu, il a toujours été là. Et quel que soit qu'on ait des vies calmes comme la sienne ou une vie plus tourmentée comme la mienne, c'est plutôt calme, ça va. À côté de la mienne, ça va, quoi. finalement, Dieu, il est toujours là. Il est toujours là. Et j'ai compris aussi, par mon passage où je ne l'ai pas ressenti, que c'était moi qui m'étais éloignée et non Dieu. Et quand je me suis, c'est important à dire, c'est que quand je suis revenue à Jésus, c'est que toutes les prières que j'ai faites pendant 4 ans dans l'islam qui n'ont pas été exaucées, elles sont arrivées d'un coup. Ta, 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 ta. Il m'a tout répondu en peu de temps. En gros, il m'a dit, j'ai toujours été là, j'ai entendu, mais je ne pouvais pas te répondre à ce moment-là parce que ce n'est pas à moi que tu parlais. En fait, tu ne t'adressais pas à moi, mais tout était en suspens et tout est tombé. Et moi, dans l'islam, je priais, convertis ma famille et tout, nanana. Mais en fait, il les a convertis. Il est converti là maintenant. Mais à Christ. Et là, j'ai vu ma mère venir, mon père, mon frère Jordan, mon frère Jonathan, là récemment, mon frère Pierre. Mais maintenant, il faut que Dieu travaille encore leur cœur parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils ont leur chemin à faire aussi. Et voilà, c'est chacun à son chemin. Bon, maintenant, j'ai semé, Dieu fera le reste.
Alors, est-ce que tu peux dire que tu as trouvé quand tu as rejoint Jésus, la foi en Jésus, il a répondu à tes questions, ce que tu n'avais pas trouvé avant.
Ah, il a répondu à tout et même bien plus encore.
Et à tes besoins.
Que ce que je m'attendais. Ouais, ouais, c'est clair, il a répondu à bien plus. Et puis maintenant, je suis plus dans l'expérimentation où, ben, en fait, j'ai compris que dans la Bible, il y a plein de choses qui expliquent qu'on a droit aux dons et qu'on doit aspirer aux dons de l'Esprit. Et en fait, le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, quand, sous forme de l'amour, je ne savais pas ce que c'était parce que je n'avais pas lu et on ne m'avait pas expliqué. Je n'avais jamais entendu parler. Je n'avais pas la notion du baptême du Saint-Esprit et tout ça. Et en gros, avec moi, Dieu, il fonctionne ben, comme je lui ai demandé, finalement. Où je lui ai dit, c'est toi qui dois m'expliquer les choses. Et en gros, ben, j'apprends directement. Et en fait, il me confirme, il me montre, je vis les choses et après, je les lis dans la parole. Et en fait, il vient me confirmer, tu vois ce que tu as vécu là. Et ben en fait, c'est ça. Donc, ce n'est pas je lis, je vis. Moi, c'est je vis, je lis. En fait, c'est confirmé. Mais j'ai l'expérience avant la théorie, en fait, en gros. Enfin, avant la parole, en fait. Mais c'est puissant. C'est vraiment
ton
puissant.
Ton baptême, est-ce que tu peux dire en deux mots?
En gros, je suis venue à Jésus il y a 2 ans. Donc, en 2 ans, il s'est déjà passé beaucoup de choses. Et ça fait 1 an que je suis baptisée. Et en fait, à la base, je devais être baptisée le 13 décembre 2016. Et 2 jours avant, mon baptême y a été annulé. Parce que mon père a fait un infarctus et que je voulais absolument qu'il soit là. Donc, ben, on n'était pas dans le contexte de baptême, alors que mon père était à l'hôpital, il devait se faire opérer du niveau du cœur et tout. Donc, j'y étais pas du tout. Donc, j'ai annulé. Ça a été reporté au 29 janvier 2017. Donc, finalement, je devais faire mon baptême toute seule. Et le 29 janvier 2017, eh ben, du coup, on était 4 à être baptisés. Mon père, ma mère, moi et mon fils. Et on a baptisé 3 générations juste avec ce report, en fait. Mais bah, Dieu est grand, en fait, hein, et finalement, il peut utiliser une situation difficile, mais pour sa gloire, finalement. Et qui est-ce qui a gagné dans l'histoire? Moi, je l'ai mal vécu dans le sens où je voulais vraiment être baptisée, que c'était important pour moi, c'était un grand moment. Et bah, j'étais déçue de le reporter. Mais quand j'ai vu la gloire de Dieu, 1 mois plus tard, je me suis dit, mais franchement, ça valait le coup, en fait, ça valait la peine. Parce qu'au lieu d'un, bah, y en a 4 qui ont été baptisés. Et franchement, il n'y a rien de plus grand. Et merci, Seigneur.
Ouais. Qu'attendu du futur?
Bah, ce que j'attends du futur, bah, c'est d'aspirer au don. Et que vraiment les choses... En fait, j'ai ressenti que 2018, ça va être une année pour la gloire de Dieu. Et que vraiment, il y a plein de choses qui vont se passer. Mais il y a plein de choses qui vont se révéler dans les guérisons, dans les miracles, ou même dans les âmes qui vont venir à Dieu. Je sais pas, je vois beaucoup de personnes qui viennent à Dieu, en fait. Un esprit de rassemblement et de multiplication. Et franchement, la prêche de dimanche dernier, c'était ça. Et je me suis retrouvée où je me suis dit... Parce que souvent, la semaine, c'est ça. Je suis chez moi et tout, et je reçois des messages. Et le dimanche, ça tombe sur ce que j'ai reçu la semaine. Et c'est tout le temps comme ça. Et là, je me dis, bah, Seigneur, je sais que c'est toi. Parce que des fois, je me pose des questions, vu que j'ai été possédée. Des fois, je me dis, est-ce que c'est pas les démons qui m'insufflent des choses? Donc, je demande tout le temps le discernement. Des fois, peut-être, je vais mettre Dieu même en suspens, où je lui dis, bah, moi, il faut que tu me prouves que c'est toi, parce que je vais pas croire d'emblée, en fait. Et j'ai peur de me faire avoir, en gros. Donc, du coup, vraiment, il faut que ce soit Dieu qui me dise et qui confirme. Et bon, quand il confirme à travers des pasteurs, à travers des frères et sœurs, ben, il me le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est bon, je sais que c'est lui. C'est confirmé, quoi. Mais franchement, c'est puissant.
Merci beaucoup, Jennifer.
Et si je peux donner un conseil aux gens qui sont ici et qui connaissent peut-être pas Jésus ou même qui le connaissent, donc déjà ceux qui le connaissent, c'est que dans l'épreuve, bah, ne lâchez rien en fait, parce que Dieu est toujours là. Et franchement, quoi qu'on puisse penser, on passe par des épreuves, mais elles sont faites pour nous fortifier. Et en fait, finalement, c'est pour un mieux. Et il faut endurer ces épreuves avec persévérance, et vous verrez la gloire de Dieu. Après, ceux qui croient pas en Jésus, qui le connaissent pas encore, bah, je vous conseille de vous remettre devant lui, mais seul, même dans votre lit, le soir, quand vous vous couchez. Et c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est quand j'ai lâché prise que Dieu a pu me répondre, en fait. parce que vous avez votre libre arbitre et ça, Dieu, il respecte. Et en gros, tant que ça ne vient pas de votre cœur et de vous, ben, Dieu ne va pas venir de force en fait, dans votre vie. Et à un moment donné, il faut dire, ben, Seigneur, je te remets ma vie et vraiment prends le contrôle de tout. Et moi, j'oublie tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai entendu. Et il ne faut pas se focaliser sur une religion, sur une pratique ou je ne sais quoi. Et vraiment, prenez du recul à chercher une relation, mais personnelle en fait. Parce que ce que j'ai compris, c'est que Dieu n'a pas de religion et que c'est une relation entre lui et nous. Et c'est ça qui est important, en fait. Et c'est la clé ben, de la connaissance de Dieu, en fait.
Merci. Bah, ça valait le coup, hein, ça valait le coup de vous écouter, les gars. Ça fait plaisir, hein. Moi, je suis remontée, là. Vous pouvez descendre, je vais juste donner la petite conclusion. Merci beaucoup. Et puis, moi, je voudrais revenir sur ce qui a été dit hier matin. Papa a parlé, et il a parlé de l'onction. L'onction du Saint-Esprit. Et allez voir dans Ésaïe 61. Et je voudrais le lire parce que je pense que c'est important. Ésaïe. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et je pense qu'on peut tous être d'accord ce matin pour dire qu'on a entendu deux témoignages, et leur témoignage est quelque chose qui est un témoin, et qui veut donner gloire à Dieu. Grâce à leur vie, il y a des vies, qui vont être transformés, qui vont être ramenés dans l'amour de Dieu. Ça, c'est leur vie. Ils n'ont qu'une vie. Toi, tu as une vie. Tu en as une, tu n'en auras pas deux. Alors, ça se calme, hein, quand on pense à ça. Moi, j'ai 38 ans. J'ai une vie. Et j'en aurai pas une deuxième. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que j'attends 40 ans? 40 ans, j'attends mes 40 ans, en fait. Je sais pas, j'aime bien. 40 ans. Je me dis, à 40 ans, déjà, je serai retraitée. Ça, je vous le dis tout de suite. Retraitée, ça veut dire que je ferai ce que j'ai envie de faire de ma vie. 40 ans, j'y suis presque. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que j'attends jusqu'à 40 ans pour enfin entrer dans quelque chose de nouveau? Ou est-ce que je le fais maintenant? Maintenant, on est d'accord, on le fait maintenant. Eux, ils sont venus ce matin, ils ont témoigné. Il y a une force dans la puissance, il y a une puissance dans le témoignage de l'évangile. Tu dis, tu prononces le nom de Jésus, il y a les démons qui tremblent. Tu dis simplement Jésus. Tu n'as pas besoin de faire une grosse prière, tu n'as pas besoin d'une prédication, tu n'as pas besoin d'une grosse révélation. Tu dis Jésus. Les démons tremblent. Je ne sais pas, mais il y a peu de personnes qui pourraient dire autre chose, quelque chose de mieux que ça. Jésus, les démons tremblent. Ésaïe 61, on parle des affligés qui retrouvent la vie, des gens qui sont malades, qui retrouvent la guérison, des gens qui ont perdu des choses. Tout le monde, chacun d'entre nous, on a perdu quelque chose dans notre vie à un certain moment donné. On est d'accord ? Il y a des choses qu'on regrette, c'est vrai? Il y a des choses qui nous ont été volées, est-ce que c'est vrai? Ouais. Eh bien, c'est le moment maintenant d'aller les rechercher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On n'a pas besoin d'autre chose. Jésus, dans ma situation,
Jésus. Elle a vécu une galère, j'ose même pas imaginer sa vie. Franchement, je préfère pas savoir, à la limite. Parce que ça me fait mal au cœur, franchement, ça me fait mal au cœur. Mais Jésus était là. Il était toujours là. Et c'est vrai que parfois on le voit pas, c'est vrai que parfois on l'entend pas. Mais Jésus fait toute la différence. On va pas attendre 40 ans, on va pas attendre 70 ans, on va pas attendre 90 ou même 20 ans pour ceux qui sont plus jeunes. On va y aller maintenant parce qu'il y a une puissance en toi. Le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, il y a une puissance qui est entrée en toi par le Saint-Esprit. Il y a l'onction de Dieu qui tombe sur toi. L'onction, c'est la présence de Dieu. On est le temple, on l'a chanté hier, le temple du Saint-Esprit. Avec ça, tu peux aller partout et n'importe où. Tu peux être avec qui que ce soit. Et la présence de Dieu performe des miracles, des guérisons, des cœurs brisés qui sont remis à neuf. C'est la réalité. Maintenant, on va se poser la question, est-ce que je vis cette réalité au quotidien dans ma vie? Ta vie, c'est ton problème. Ma vie. C'est ce que j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus ce matin. Dans ma vie, est-ce que je vis cette réalité? Parce que c'est ce qui importe. J'ai qu'une vie et je veux qu'elle fasse une différence. Au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est une pour celui. Tu as l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Jésus est mort sur la croix. Dieu a envoyé son fils sur la croix. Son fils est mort pour nous. Il est allé au tombeau. Il est ressuscité. Grâce à la résurrection de Jésus, il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Elle est en toi et elle est en moi. Je n'ai pas honte de l'évangile, car elle est une puissance pour celui qui croit. Alors maintenant, tout ce qu'il faut, j'y crois. Je vais voir mon copain, je vais voir ma copine, mon voisin, ma voisine, les gens dans la rue. Il y a une puissance. Elle est en toi, tu la communiques, il reçoit la puissance, il va la retransmettre un par un. On va voir la gloire de Dieu. Amen. On se revoit le week-end prochain, je vous y reverrai. Chacun, on amène notre petit flyer là. Petit flyer, il s'appelle comment Franck Alexandre. Vous avez le petit flyer, vous allez le chercher, vous le prenez. Pendant la semaine, vous priez, Seigneur, à qui est-ce que je donne ce flyer? À qui? Seigneur Jésus, je te demande ce matin de nous révéler clairement, clairement, à qui tu veux qu'on donne ce flyer. Et Seigneur, tu nous donnes l'audace de le faire. Les mensonges doivent partir. Il y a une puissance. Et on l'a en nous et on veut la transmettre. Donc Seigneur, montre-nous qui c'est. On donne ce flyer, on amène ces gens. Et Seigneur, nous proclamons déjà aujourd'hui des âmes sauvées. Vendredi, samedi, dimanche, je ne sais pas quel est le programme. Mais tout le week-end, Seigneur, on prie pour une moisson. La moisson est grande et nous sommes les ouvriers. Merci pour cette semaine, Seigneur, parce que tu nous mets au travail. On y sera, on sera présent et on se réjouira parce que une âme, deux âmes, 10 âmes, 100 âmes, 1000 âmes seront sauvées le week-end prochain. Amen.
Amen. Je vais juste pas parler parce que j'ai plus de voix. Montrer quelque chose et c'est vraiment, je veux même pas parler parce que c'est juste Camille, tu peux m'aider, me ramener la boîte et si tu peux mettre le verset. Et puis par la même équation, tu peux prendre ta guitare. Et puis jouer. Non, ici, chérie. C'est juste une démonstration, en fait, de tout ce qui a été dit. Il y en a là, je pense. Ah, c'est peut-être... je vais peut-être pas faire sur la table, alors. Ah, si, c'est bon. Il me manque la petite coupelle. Au départ, quand on est créé, on est juste rien. Juste une graine. Et tout ce qu'on a parlé cette semaine, ce week-end, on a parlé du Saint-Esprit. La première session, c'était ça, c'était l'onction. Et être huilé, Arlette. Être huilé, Arlette. On rentre dans le royaume de Dieu. On met la prise. On se connecte à Dieu. On est réchauffé. On est touché par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous touche. Viens là où il faut et hop, il enlève, il répare, il restaure. Nous avons été oints pour, comme a dit Nathalie dans Ésaïe 61, quant à vous, l'Esprit dont vous avez été oints par le Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin qu'on vous instruise, car cet Esprit dont vous avez été oints vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu d'eux. Vous êtes dedans, vous êtes dans le royaume. Dieu vous travaille, ça ne se fait pas tout de suite. Il y a du bruit. Si vous mettez votre main ici, il y a de la chaleur. Vous passez par le feu. C'est votre vie là-dedans. C'est l'Esprit qui est en vous. C'est l'Esprit qui commence à... On entend des petits pics, pics. Ah ! Comme elle disait Jennifer. Je vis, je lis. Ça commence. On est content. Mais là, Dieu enlève la casquette, pour que vous puissiez briller, pour que vous puissiez agir, pour que vous ayez de la saveur, pour que vous ayez quelque chose de bon. Qui aime les pop-corns? Ça explose là! C'est votre vie avec le Saint-Esprit! Ça explose! Rien à dire de plus! Alléluia, je vous encourage vraiment à vivre cette vie de l'Esprit. Rien à dire de plus. J'ai vraiment envie de... Je sais que ici on aime bien se tenir aux horaires, mais maintenant, si vous voulez recevoir encore plus ou refaire, si quelqu'un ne connaît pas Dieu, comme on a entendu avec Jonathan et Jennifer, si vous sentez maintenant, venez ici devant et on passe un temps avec vous dans la prière. T'es d'accord, Nathalie ? Amen. Si quelqu'un ne connaît pas Dieu, viens, cours pour connaître cette vie abondante et puissante. Amen. Venez devant. Nathalie, Chris, venez prier. David, allez. Amen. Soyez renouvelés dans l'esprit. Jesus, je vais nettoyer. Amen. Alléluia.
L'audace, tous ceux qui ont besoin d'audace, c'est le moment. Il faut se lever et on va prier et Dieu va nous remplir. L'onction de Dieu est là, elle est pour toi ce matin. On veut exploser, oui ? Ouais, on veut exploser. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, c'est le moment. Venez, on prie pour vous, on prie avec vous et on peut...